Consommer local vous intéresse ? Ce podcast de Sud-Ouest est accompagné par le mouvement hashtag Bordeaux local, une campagne qui met en avant les acteurs économiques girondins, les établissements, les hommes et femmes qui jouent la carte des produits locaux et des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble des acteurs locaux doivent se soutenir et participer à une économie plus solidaire, responsable et engagée. C'est pourquoi l'interprofession des vins de Bordeaux, l'UMI Gironde et l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole ont conçu ce mouvement, avec l'adhésion de nombreuses personnalités. Si vous aussi vous êtes hashtag Bordeaux local, rejoignez-nous en découvrant les établissements qui mettent en avant les produits locaux, en vous inscrivant sur bordeauxlocal.fr et en partageant le hashtag Bordeaux local.
Bonjour, je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Sud-Ouest. Merci d'être là. Bonne écoute.
Radiographie d'une appellation, ou plutôt de 4 appellations. Aujourd'hui, le Conseil des vins de Saint-Émilion regroupe 900 viticulteurs. Pour 4 appellations, 7500 hectares, puis Seguin, Saint-Émilion, Lussac, Saint-Émilion, 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 Grand Cru. Comment vont les viticulteurs? Comment vont les appellations? Comment se vendent les vins? Jean-François Gallo, président du Conseil des vins de Saint-Émilion, répond à nos questions. Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et à notre micro, Jean-François Gallo. Bonjour Jean-François Gallo.
Bonjour à tous.
Président du Conseil des vins de Saint-Émilion depuis une petite dizaine d'années.
Depuis 2015.
Vous êtes issu d'une famille de viticulteurs, de pépiniéristes, de négociants à Saint-Émilion. La maison Gallo, fondée par votre grand-père en 1901, il s'appelait Léon. Et puis, vous avez, à titre personnel, occupé plusieurs mandats et vous continuez à en occuper plusieurs au CIVB, au comité régional de l'INAO. Vous avez également été conseiller au commerce extérieur de la France dans la commission vins et spiritueux. Avant de parler de Saint-Émilion, on va vous demander de travailler un peu. Les chiffres clés du Conseil des vins de Saint-Émilion, c'est quoi?
C'est 7500 hectares, 900 viticulteurs. Donc, c'est un gros syndicat. Le Conseil des vins, c'est un très joli nom, mais nous sommes un syndicat viticole, voilà, ne l'oublions pas. Premier syndicat viticole de France créé en 1884. Hein, donc c'est la particularité de Saint-Émilion, ce sont des petites propriétés d'une moyenne de 8 hectares. Donc ça veut dire bien sûr, il y a des propriétés beaucoup plus importantes et d'autres plus petites, notamment avec la particularité d'avoir 2 unions de coopérateurs donc sur notre territoire. L'UDP, l'Union des producteurs de Saint-Émilion, voilà, qui est une des plus importantes caves coopératives de France en AOC, et l'Union des producteurs de Puisgain-Saint-Émilion, voilà, Lussac, aussi importante, voilà, et qui regroupe tous ces petits viticulteurs de petite surface. Voilà, c'est un peu cette période. Et avec, aussi quand même, dans la répartition, ne l'oublions pas, un classement à Saint-Émilion et des crus classés, qui représente à peu près aujourd'hui 22% de l'appellation Saint-Émilion.
Alors César, je me tourne vers toi maintenant. Saint-Émilion, il y a des petits, il y a des grands, il y a des grandes appellations, il y a des satellites. Et c'est finalement un petit monde bordelais qui est concentré là.
C'est un petit monde bordelais, Mathieu, mais c'est un monde qui est très actif. Moi qui tourne beaucoup dans les vignobles, qui évidemment rencontre toutes les appellations, c'est vrai que Saint-Émilion a des particularités, d'où notre invitation aujourd'hui de M. Gallo, et on la remercie. M. Gallo, un premier élément autour de l'environnement. Saint-Émilion est un des premiers syndicats dans la région et en France à intégrer des mesures agri-environnementales dans son cahier des charges. Les viticulteurs comme les agriculteurs sont parfois montrés du doigt. En France, agriculteurs pollueurs, ce sont des termes qu'on emploie. Est-ce que les viticulteurs à Saint-Émilion produisent de manière propre ?
Oui, bien sûr. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Moi-même, j'étais viticulteur il y a bien longtemps, mais j'ai commencé à l'âge de 18 ans, donc ça fait 60 ans à peu près, ben, un peu moins. Mais on utilisait notamment, enfin c'était propre, j'étais en bio déjà par force, mais c'était 45 kilos de cuivre par hectare à l'époque. Aujourd'hui, on est 10 fois moins. Bon, et donc, on a eu une période d'utilisation, comme partout en France, des produits chimiques, de synthèse. Voilà, donc, moi qui ai eu un parcours aussi commercial important dans ma vie, je suis conseiller commercial extérieur de la France depuis longtemps, depuis 20 et quelques années, avec une grande expérience de l'export, j'ai très vite compris, et peut-être par anticipation, qu'il y avait une demande, notamment des pays scandinaves, qui demandaient voilà, des produits issus d'une viticulture plus raisonnée et plus propre. Donc, c'est pour ça que je n'ai fait que suivre, d'ailleurs, une impulsion déjà lancée par certains de mes prédécesseurs, dont je peux le citer, il n'est pas que je le cite, mais je le citerai quand même, c'est Philippe Bardet, à Saint-Émilion, qui était un des premiers à enherber ses vignes, au grand dam de son père, qui était furieux d'avoir des vignes sales par rapport aux viticulteurs d'un côté. Voilà. Et Philippe avait créé Tulip, donc à Saint-Émilion, qui a été un peu les prémices de notre engagement ensuite donc environnement. Et quand j'ai été nommé donc président du Conseil des vins en 2015, avant Cash Investigation, ma première décision, c'était de créer la commission environnement. Voilà, nous avons dans le travail du Conseil des vins de Saint-Émilion plusieurs commissions, commission économique, commission de communication et commission technique. Voilà, j'ai créé la commission environnement et donc technique et environnement et biodiversité, voilà, qui a penché sur ce dossier-là. Voilà.
Et aujourd'hui, ça a débouché sur des normes intégrées au cahier des charges. Quelles sont ces normes? Fait Saint-Émilion que ne font peut-être pas d'autres vignobles?
Non, la première appellation, on est la première appellation française, et peut-être au monde aujourd'hui, est-ce que l'obligation est que 100% de nos viticulteurs ont une certification environnementale? On ne peut plus produire du Saint-Émilion si on n'a pas une certification, qu'elle soit... Alors, il y avait déjà des gens bien engagés, dans le bio notamment, mais dans la HVE, donc dans Terravitis, AgriConfiance, différentes chapelles. Donc on dit, on ne peut pas choisir, on a étudié, créer notre propre chapelle, notre propre certification. Ça va être compliqué, il y a déjà des viticulteurs bien engagés, donc on va plutôt tous les fédérer et faire en sorte qu'on soit tous environnement, certifié environnemental. Bon, rien n'est parfait. Bon, mais pour aller à un chemin, il faut un chemin. Donc voilà. Alors certains ont choisi Terravitis, AgriConfiance. Bon, ça serait magnifique si nous étions 100% bio à Saint-Émilion. Ça serait un argument massue de communication. Mais sachant que le bio n'est pas forcément toujours la panacée. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en bio, en biodynamie, je les admire. Bon, de persévérer, c'est pas toujours facile.
Même voilà. Si les rendements sont moindres,
voilà,
j'imagine.
Les rendements sont moindres.
C'est quand même,
voilà. Mais il y a un chemin. Donc, c'est de regrouper tout le monde sur ce chemin et ne laisser personne au bord du chemin. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Nous avons deux ingénieurs aujourd'hui recrutés au niveau du Conseil des vins, deux femmes, donc, qui sont là pour accompagner les viticulteurs dans leur obtention de leur certification.
Et est-ce que vous sentez que les autres viticulteurs du Bordelais prennent la même voie? Bordeaux, au niveau national, est parfois montré du doigt comme peut-être un vignoble un peu moins vertueux que d'autres. Est-ce que c'est votre avis ou pas? Ou est-ce que vous sentez un vrai mouvement? Vous qui avez des responsabilités au niveau du CIVB,
donc
ça veut
dire
que vous avez des grands vins de Bordeaux.
Je suis vice-président, à côté de mon ami Jean-Marie Garde, président de Pomerol. Bien sûr, mais il y a un très gros travail qui a été engagé au niveau de l'ensemble du Bordelais. Nous, on a voulu aller un peu plus loin dans cette obligation de certification. Donc, c'était un peu compliqué parce que Paul Yanao, qui nous a fini par nous suivre là-dessus, parce qu'il dit, vous perdez le contrôle de votre cahier des charges. Vous donnez un contrôle à des organismes certificateurs. Oui, mais ces organismes certificateurs, ils sont des organismes validés par le ministère de l'Agriculture, par l'État. Donc, pour moi, ça ne me gêne pas. Donc, ça soit un organisme extérieur. Et je trouve, quelque part, même par rapport au public, c'est bien de montrer qu'on ne s'auto-certifie pas soi-même et on fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour se contrôler. Voilà. Et donc, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, mais on a la première appellation. Je pense que d'autres appellations, voilà, nous suivront en France dans cette voie-là. Mais après, il y a des gens... moi, j'ai fait un peu de benchmarking. Des gens comme le Buzet, par exemple, qui sont très en avant, très belle appellation, avec un très gros travail d'environnement. Voilà, et on s'est un peu inspiré pour au niveau d'une appellation beaucoup plus grande, parce que nous, c'est quand même... Voilà, c'était 980 exploitants d'exploitation en 2015. Bon, par le biais des regroupements, des cessions familiales et autres, voilà, on est plus de 900 aujourd'hui. Mais c'est un gros travail avec, vous l'avez dit tout à l'heure, une grande diversification avec des petits, très humbles, et puis des grandes exploitations, bon, telles que Cheval Blanc ou Ozone ou, voilà, ou Figeac, des grands noms qui sont très avancés également en matière d'environnement, peut-être mieux que les petits viticulteurs.
Un autre point technique, on va rentrer dans la période de gel, peut-être de grêle. Saint-Émilion a été également novateur sur la mise en place d'un système de lutte anti-grêle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est compliqué? Combien ça coûte? Est-ce que d'autres appellations s'en sont inspirées? Quel est ce système de lutte collectif à Saint-Émilion?
Tout à fait. Nous avions quelques viticulteurs qui avaient déjà mis en place ce système-là. La famille Todeschini, de Vangaud, la famille Fondnier-Père également, donc de Château-Cadran-le-Gaffelière. Mais c'était les systèmes de protection dans lesquels c'était des systèmes itinérants, dans lesquels il fallait amener les ballons sur les parcelles. Donc pour lancer ces ballons, le principe, c'est un ballon gonflé à l'hélium, qui monte, donc, parce qu'il est gonflé justement, et il monte aux alentours de 1200 mètres, il est aspiré par les courants ascendants, comme tout orage, c'est une sorte de tapis roulant qui avance avec les courants ascendants, donc on lance, il monte, il est aspiré, et là il y a un déclencheur donc, qui fait qu'on ensemence le nuage donc, avec du chlorure de calcium, donc quelque chose qui est totalement neutre, donc, mais qui empêche, donc c'est les gouttes d'eau qui montent et qui descendent. Quand elle monte, eh bien, elle gèle, elle redescend, puis elle remonte, elle grossit, ainsi de suite, jusqu'à ce que la densité de la goutte, qui est devenue la glace, tombe et crée de la grêle. Donc voilà, c'est ce qu'il faut empêcher. Donc c'est cet ensemencement des nuages. Alors il faut donc, comprenez bien, pas un seul ballon, mais une multitude, donc une quinzaine ou une vingtaine de ballons pour ensemencer un nuage. Hein, voilà. Mais c'était très compliqué. Nous avons réussi à obtenir de la société donc, qui fabrique cette installation donc des postes de tir semi-automatiques, c'est-à-dire qu'ils sont fixés. Nous avons 37 postes de tir maintenant répartis sur l'ensemble de notre territoire de Saint-Émilion, Lussac et Puisgain, avec des lanceurs donc, qui sont des viticulteurs, qu'on a formés d'ailleurs au niveau météorologique, parce qu'il faut un diplôme pour pouvoir avoir la capacité à faire. Voilà. Et avec un téléphone iPhone ou autre, enfin un téléphone ou un smartphone, on peut déclencher le tir des ballons à distance. Et chaque lanceur va avoir, avec un chef lanceur, va dire, toi tu tires le poste 25, 26, 27, 28. Après, chaque lanceur va avoir 4 à 5 postes en responsabilité et on va tirer peut-être 15 postes voilà, pour ensemencer donc, le nuage et éviter que la grêle se...
Et vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois, ce système ?
Une fois qu'il y a une alerte. Alors, l'avantage de ce système, c'est que nous avons un radar sur le sol de Saint-Émilionnais, un radar de précision, donc qui nous permet d'analyser avec des algorithmes la dangerosité des nuages. Donc voilà, donc on ne tire pas n'importe comment. Et c'est quand on voit justement, et la société donc, qui gère cela donc, nous informe en disant attention, là, il y a un grand danger, et là on tire. Voilà. Donc on a tiré beaucoup, oui, on tire quand même plusieurs centaines de ballons par an, bien sûr.
Vous en tirez un bilan positif, ça fait 3-4 ans, je crois.
Il y a eu un petit incident l'année dernière sur une parcelle, sur les parcelles du secteur de Saint-Pédermas, où ça a un petit peu tapé quand même. Pourquoi? On s'est fait surprendre par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Il y avait deux cellules, dont une qu'on avait attaquée, donc, et qui partait, donc on était... Mais malheureusement, elle a attiré une autre cellule qui a aspiré, voilà, et elle a créé donc, une sorte de tornade entre les deux, voilà, et avec une précipitation où, si on savait, mais avec des si entre tout, bon, on aurait dû en semer beaucoup plus fort. Voilà.
37 postes de tir avec lanceur, ça coûte combien, Jean-François Gallo, à la collectivité, au syndicat?
Alors, le coût à l'hectare, c'est 60, en gros, c'est la moyenne, c'est 75 € donc, par an et par hectare. Ça, c'est le coût moyen. Comment ça s'est fait? Et ça a pu se faire grâce, il faut le dire, aux grands propriétaires, les crus classés, qui ont accepté de payer, eux, beaucoup plus cher, donc entre 125 et 225 € si c'est un grand cru classé ou un premier grand cru classé, donc qui permet aux moins donc riches, donc dans le viticulteur de Lussac et Puisgain, qui n'ont pas le même revenu à l'hectare, forcément, voilà, de payer, eux, que 45 € à l'hectare. Saint-Émilion, Puisgain, et voilà, et Lussac paye 45 €, et les Saint-Émilion grands crus payent 75 € à peu près, et les grands crus classés 125 et 225 €. Voilà. Le coût initial, quand même, c'était en investissement 3 millions d'euros.
Alors justement, pour gagner tous ces euros, ce galop, il faut des rentrées financières. Et la viticulture bordelaise, globalement, ne va pas bien. Il y a peut-être des difficultés de paiement chez certains viticulteurs pour l'adhésion au syndicat, pour payer ce genre de prestations. Comment on fait pour mobiliser un groupe de viticulteurs dont une partie est en difficulté? Est-ce que vous avez des gens qui veulent sortir du syndicat? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits des prestations? Comment vous gérez la période trouble quand même dans laquelle se trouve le vignoble?
Bon, il y a toujours des insatisfaits. Bon, mais bon, ça c'est récurrent, et c'est normal. Mais souvent, ils sont insatisfaits parce qu'ils ne sentent pas compte le travail que leur syndicat fait pour eux. Je leur dis, vous savez, le Conseil des vins, c'est un bon nom, mais vous êtes un syndicat viticole, vraiment, et regardez le passé de ce syndicat, tout ce qu'il a pu faire pour la viticulture, c'était lyonnaise. C'est assez extraordinaire. Nous, on le voit, ce travail pour la grêle, nous sommes en train de faire un travail important sur le gel également. Bon, alors jusqu'à maintenant, cet émillon se portait très bien, jusqu'à il y a un an. Voilà. Aujourd'hui, depuis un an, on voit qu'on décroche, c'est-à-dire que la loi de l'offre et la demande fait qu'on est à peu près à moins 10 et à jusqu'à moins 20% selon les appellations
de vente,
au niveau de sortie.
De vente de vin.
Voilà. Donc il faut être très vigilant, parce que la loi du commerce, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc il faut toujours faire attention à ce que la demande soit supérieure à l'offre, sinon c'est les cours qui baissent. Voilà,
et quelles sont les raisons, d'après vous, de ce décrochage?
Le décrochage, c'est une désaffection principalement qui est générale, notamment sur la France, pour les vins rouges. Une déconsommation du vin en général, et encore plus des vins rouges que des vins blancs. Voilà. Et nous sommes à 7 millions producteurs uniquement que de vins rouges.
Ça me fait penser à cette réflexion de Stéphane de Renoncourt qu'on avait ici reçue il y a quelques semaines, qui disait « Historiquement, Saint-Émilion, il s'y passe toujours des choses, c'est toujours un laboratoire ». À la lumière de ce que vous venez de nous dire, Jean-François Gallo, il y a deux réflexions qui me viennent. La première, elle vient sur le Merlot, évidemment, puisque c'est un cépage dont on parle beaucoup dans un contexte de réchauffement climatique et dont on se demande si ce sera encore l'avenir dans 10 ou 15 ans. Et puis, autre point, c'est « et si, à Saint-Émilion, on faisait plus de blanc ?» Je soumets ça à votre sagacité. Ces deux réflexions.
J'ai soumis ces réflexions à mon conseil d'administration il n'y a pas longtemps. Voilà, nous sommes en réflexion, justement, et en pourparler à l'INAO pour nous permettre d'ajouter donc, la couleur blanc aux appellations de Saint-Émilion.
Comme le fait le Médoc, depuis 2-3 ans.
Le Médoc, voilà. Donc, il y a quelques viticulteurs qui ont commencé à faire du blanc, mais aujourd'hui on peut en le faire que soit en IGP ou en vin de France ou en Bordeaux, puisque nous sommes sur l'appellation régionale quand même. Bon, Saint-Émilion fait partie de l'appellation régionale. J'ai encore vu un magnifique Châteauneuf du Pape ce vendredi dernier. Je dis tiens, pourquoi pas, c'est une belle appellation principalement de rouge, mais j'avais un blanc qui était merveilleux. Et je pense qu'on peut faire des blancs merveilleux également à Saint-Émilion. Donc, et ça, on les doit être dans l'anticipation. Aujourd'hui, on peut nous dire oui, mais certains de mes administrateurs m'ont répondu l'autre jour quand j'ai porté cette question, justement, quand c'est l'administration. Et oui, mais tu sais, bon, on peut quand même produire le blanc, mais nous, notre clientèle, c'est quand même du rouge. Oui, mais notre clientèle d'aujourd'hui. Mais il faut être peut-être dans l'anticipation dans les 10 et 15 ans qui viennent, parce que la réussite, ça va pour réussir, c'est anticiper. Bon, c'est ce qu'on a fait avec l'environnement, où on a senti avant peut-être les autres. Que là, il y avait une demande sociétale de produits issus de récoltes. Et aujourd'hui, moi, c'était une grande peine. On a beaucoup de touristes qui viennent à Saint-Émilion, 1 200 000 touristes à peu près par an. Bon, et certains marchands me disaient, nous, on ne peut plus marcher dans les vignes parce que vos vignes sont traitées. Bon, aujourd'hui, à l'entrée de Saint-Émilion, vous avez un panneau village bio engagé. Voilà, et on peut être fier de ça. Donc, ce qui fait que les gens ont envie de se promener dans nos vignes parce qu'ils savent qu'on est, voilà, on était dans cette anticipation. Mais là, je pense qu'il faut aussi être dans l'anticipation de la demande sociétale, plus de vin blanc, et pourquoi pas commencer. Je suis certain que certaines parcelles de Saint-Émilion aujourd'hui seraient tout à fait appropriées justement à produire du blanc.
Et voilà. pour reprendre une question de Mathieu, le Merlot, c'est le maillon faible de la viticulture de demain?
Non, pas pour moi. Pas pour moi. Le Merlot, mon grand-père a été pépiniériste, mon parrain a été le patron de la Grande Ferrale, Louis Vadou, un des plus grands empélogistes de France et mondial. Et on a travaillé sur des clones. Moi, je me rappelle quand je faisais une étude d'agriculture au lycée agricole, mon parrain, justement, faisait une étude de clones précoces. Mais aujourd'hui, il faut revenir sur des clones plutôt qui soient l'inverse. Voilà. Et qui ont un débourrement plus tard. Voilà. Et on peut très bien travailler sur les clones aussi avant de révolutionner et changer nos cépages. Bon, on peut amener, c'est ce qu'on fait, nous, dans le travail. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle l'Observatoire du territoire. On fait partie, on a mis en place des GI2E, on fait partie de Vitirev, on fait partie de Agri Data Value au niveau européen, sur l'étude aujourd'hui du réchauffement climatique, de connaître parfaitement à la parcelle, même au mètre près, la connaissance de notre sol et la température, aussi bien pour la lutte contre le gel que pour la lutte contre le réchauffement climatique, bon, et voir où ceux qui font implanter, par exemple, des haies pour apporter de la fraîcheur, redévelopper les répulsives, les bordures, voilà, de façon à ce que l'évaporation apporte de la fraîcheur et qu'on lutte cette évaporation. On a vu, par contre, regardez, 2022, l'usine 2022, tout le monde était très inquiet de cette élévation de température très forte. On a fait des 2022 qui sont absolument fabuleux. Donc, des récoltes, je me rappelle les anciens, moi j'ai récolté des fois en 1975, chez mon grand-père, Terre Doguet, des degrés, le 17 degrés 8 dans la côte midi. Bon, et M. Chadeau, le vieux du coin, m'a dit, mais t'inquiète pas, en 1929, on a commencé à vendanger fin août. Voilà, donc c'est pas toujours, on a connu aussi les années chaudes à Bordeaux, et 29 est un des plus grands millésimes de Bordeaux, comme les 2022. Voilà, donc il ne faut pas être inquiet, il faut être resté. Bon, on a un peu de degrés d'alcool. Peut-être qu'il faut qu'on trouve quelques levures qui mangeront donc plus de sucre pour donner moins d'alcool. C'est aussi une des voies que la recherche fait aussi en ce moment.
Petite parenthèse d'actualité. Alors, on est au mois de mars, on est fin mars et nous ne diffuserons d'ailleurs ce podcast que courant avril. Fin d'un feuilleton judiciaire, le classement 2012. Donc, qui a été légitimé 11 ans plus tard. Le classement 2022 qui avait connu à la fois quelques critiques et des discussions sur les critères de notation. Nous sommes dorénavant en 2024. Comment vous regardez ce qui s'est passé là depuis quelques années ?
Non, mais moi je me suis penché, je ne suis pas candidat au classement. D'ailleurs, je m'étais engagé, comme je portais le classement 2022, je m'étais engagé auprès de l'INAO qui ne voulait plus trop y revenir, et j'ai dit, moi je vous garantis, je ne serai pas jugé parti, personne du Conseil des vins ne s'immiscera dans les règles du classement, c'est l'INAO qui sera totalement souveraine donc dans ce classement, enfin voilà, c'est l'Institut qui sera souverain là-dedans.
Ce qui n'était pas le cas pour les classements précédents, où le Conseil était quand même intégré.
Avant 2012, c'était un peu quand même le cas, un petit peu, mais il y avait des consultations, 2012, voilà, oui. Avant 2012. Hein. Mais justement, dans le classement 2012, je me suis pioché dessus, et je vois qu'il était très bien fait, c'était une multitude d'items, d'une centaine de critères, qui faisaient que, voilà, on pouvait prétendre au classement. Être cru classé, premier grand cru classé, c'est un peu comme être dans une équipe de Formule 1. Ça, c'est à la recherche de la perfection du moindre détail. Voilà. Et c'est pas alors... On peut avoir quelques éléments de détail. On a parlé du réceptif, voilà.
C'était surtout les parkings.
Les parkings, voilà. Ça représentait, si vous voulez, moi j'avais fait le point, j'ai calculé sur les dossiers. Moi, ce que ça donnait, je n'ai pas accès à un dossier plein, mais j'ai regardé. Et c'était quoi ? C'était rien, c'était pinel. C'était 0,08 sur 20 pour si on avait 100% de réceptif ou pas de réceptif. Bon, il y a les propriétés avec peu de réceptifs qui ont été élus au grand cru classé en 2012. Voilà. Donc le classement a été vraiment bien fait. Après, oui, ça fait de la peine quand on n'est pas classé et on essaye de lutter contre. Bon, mais les jugements étaient là pour montrer que les trois plaignants étaient dans l'erreur, voilà, et que c'était bien fait.
Est-ce que le classement a été abîmé, M. Gallo, avec toutes ces épreuves devant les tribunaux ?
Sans doute un peu, oui, sans doute un peu. Mais... moi, je crois en ce classement. Bon, il était créé en 1955. Mon grand-père a fait partie de ceux qui étaient au syndicat viticole à l'origine du classement, comme il était à l'origine de la Jurade de Saint-Émilion en 1948, à la création de la Jurade. Bon, on est très fiers de classement. C'est un classement d'une modernité, mais qui ne se dément pas. C'est fantastique. Hein, c'est une remise en question. Et c'est un ascenseur social, si on veut, qui est exceptionnel. Donc ça veut dire que ceux qui ont été classés là en 2022, ils sont déjà au travail pour 2032. On ne peut rien laisser passer, parce qu'on n'est pas classé sur un millésime, sur un moment donné, non, on est classé sur les 10 ou les 15 millésimes précédents. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune relâche de permis sur ce classement. C'est fabuleux, là. Imaginons Saint-Émilion sans classement, Saint-Émilion ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. C'est pas, voilà, on ne peut pas imaginer, moi je ne pouvais pas imaginer Saint-Émilion sans classement.
Avec toutefois un spectre, et si quand on atteint le Graal, premier cru classé A, on sortait parce que finalement on capitalise sur ce titre. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, la sortie des crus qui sont sortis, c'est une décision qui leur est pour qu'il leur est propre, oui, un cru comme Cheval Blanc, et à une telle notoriété, mais je ne discute pas, hein, c'est l'histoire même des vins de Bordeaux, voilà, il est parti sur ce qu'on appelle les sept grands, Lafitte, Latour, Mouton, Margaux, voilà, Cheval Blanc et Ikem, c'était les sept grands, voilà, et donc il n'y a pas, après c'est un choix, bon, la maison qui possède Cheval Blanc a une telle puissance de communication, bon, qui n'ont pas besoin, effectivement.
LVMH, voilà. Pour le rappeler. Mais bon, et pour les autres crus qui ont quitté le classement, donc c'est Ozone et Angelus.
Oui, Ozone, Angelus, et indirectement aussi la Cafélière, voilà. Donc, moi, ça me peine de voir leur sortie, de les voir leur vue sortir. Bon, mais c'est une décision qui leur est propre, après, il y a des... C'est un petit village, Saint-Émilion. Il y a des histoires de personnes et des histoires de village. Voilà. J'en dirai pas plus.
Alors, il y a une question qui nous préoccupe.
Je suis ravi, par contre, juste de vous couper, de voir des crus comme aujourd'hui Figeac, qui ont été au plus haut classement. Quand je vois, quand on voit Figeac, et qu'on voit les équipes de Figeac, qu'on travaille avec eux, on voit le boulot qu'ils font sur le terrain, notamment au niveau environnemental, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment, voilà, on peut être que fier d'avoir des fleurons tels que Figeac et Pavie aujourd'hui sur notre territoire.
Avec un chai superbe.
Oui, et parfaitement intégré, sachant que, rappelons-le, nous sommes classés au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO, depuis 1999, premier vignoble à être inscrit. Donc, nous avons fêté les 25 ans cette année, au mois de septembre. Mais nous avons d'ailleurs une réponse positive depuis hier, de la Bourgogne et de la Champagne, qui seront présents à nos côtés, puisqu'ils ont été aussi classés, voilà. Donc, il y aura une grande manifestation pour les 25 ans de cette inscription. Donc, ça oblige, ça, voilà, aussi, s'appeler Saint-Émilion, ça oblige.
Alors, une question qui nous préoccupe, je le disais, et qui préoccupe généralement tous les gens qui viennent autour de cette table. César, je te regarde, c'est la distribution. Et sur la distribution et sur la promotion, vous avez en tout cas été assez astucieux.
Effectivement, parce que Saint-Émilion, le syndicat de Saint-Émilion, du Conseil des vins de Saint-Émilion, est propriétaire de deux structures qui permettent finalement de faire rentrer des sous, parce que vous l'avez dit, M. Gallo, les temps sont durs. Vous avez un magasin à Saint-Émilion qui, je crois, fait un chiffre d'affaires assez conséquent. Et vous êtes également propriétaire de la salle des Dominicains, superbe salle qui accueille de multiples manifestations. Expliquez-nous comment un syndicat, qui est finalement une structure professionnelle, gère ces deux entités.
Alors, la Maison du Vin, bon, dont nous avons racheté les bâtiments à la mairie de Saint-Émilion il y a 4 ans, avant nous étions locataires, bon, n'est pas là pour faire de l'argent. Parce que le syndicat n'est pas le faire de l'argent, c'est faire de la promotion. Mais quand on reçoit 1 200 000 touristes à la ville de Saint-Émilion, il est certain qu'il est important d'avoir une vitrine et qu'on picouse les touristes voilà, au Saint-Émilion, si je puis dire. Voilà. Donc, et donc, effectivement, le chiffre d'affaires est assez conséquent, c'est à peu près 1 000 000 d'euros de fait en stabilisant du vin. Mais le but, ce n'est pas le chiffre d'affaires et de gagner de l'argent, c'est l'équilibre simplement, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des viticulteurs. On vend les vins au prix de la propriété. Voilà, donc, et on rétrocède simplement bon, le prix de vente, moi c'est la marge pour faire fonctionner la maison du vin. Mais c'est à peu près 600 références qui sont là de différents vins, millésimes, de différentes appellations, qui permet aux touristes voilà, de découvrir dans la maison du vin donc, tous ces produits-là. Bon, vous savez également dans la maison du vin, nous avons à l'étage une salle de dégustation importante qui permet de recevoir, bon, mais nous de faire d'abord nos dégustations interne, de contrôle, de qualité, voilà, et puis de recevoir des journalistes extérieurs, voilà, et de leur faire découvrir les vins de nos appellations, voilà, donc c'est un très bel outil, Maison du Vin.
Et cette superbe salle des Dominicains.
Et la superbe salle Dominicains, bon, que nous louons et que, pour équilibrer nos dépenses, voilà, c'est pareil, c'est pour équilibrer mais son entretien, son chauffage, sa clim, voilà, mais elle permet, c'est pareil, c'est une salle de communication. Elle nous permet de faire, bien sûr, nos assemblées générales, mais nos jurades, voilà, ces deux jurades par an que nous faisons en Saint-Émilion, et en juin et en septembre, voilà, qui sont un fabuleux, tambour de communication. Voilà, donc, c'est une chance, c'est vrai, que, voilà, et on y accueille beaucoup de conférences. Et donc, on aime bien amener les gens sur un côté différent, leur faire découvrir Saint-Émilion par l'envers du décor, forcément, à Saint-Émilion. Ouais,
qui est le nom d'un restaurant bien connu, voilà, appartenant à la famille Perse.
Voilà, qui a été créé par François Deniris au départ, mais c'est le nom qui était un peu un trublion, François. Voilà, mais l'envers du décor, voilà. Et on aime bien positionner Saint-Émilion là où on ne nous attend pas. Donc, faire des conférences qui n'ont rien à voir avec le vin, mais à Saint-Émilion. Et c'est vrai que le mot Saint-Émilion, mais met des étoiles dans les yeux des gens, voilà, et fait venir plus facilement les gens que si on les recevait, allez, je ne veux pas être méchant, à Libourne, simplement, où mon ami Philippe Buisson fait un fabuleux boulot de rénovation de cette ville, en tout cas. Voilà. Mais Saint-Émilion, c'est magique, il y a un petit côté magique. Voilà.
De Saint-Émilion au monde entier, Jean-François Gallo, dernière question, vous êtes négociant, vous êtes propriétaire, je ne crois pas avoir d'ailleurs cité le château La Rose-Brisson à Vignonnet, dont vous êtes le propriétaire, vous êtes élu au conseil, au CIVB, au conseil des interprofessionnels des vins de Bordeaux. Comment vous voyez l'année qui a commencé et qu'est-ce qu'on souhaite à Bordeaux en général, si vous aviez une baguette magique?
Il faut raccrocher tous les jeunes consommateurs aujourd'hui, voilà, nous savons, à Bordeaux, des consommateurs trop vieux. Bon, ce sont des bons consommateurs, mais bon, on est vieux, ça vieillit, ça disparaît. Voilà. Et donc, et aujourd'hui, par exemple, on l'a vu au CIVB, la campagne Jauge de Croule, une nouvelle campagne faite par le CIVB, une campagne moderne que nous appuyons. Ouais, voilà, nous sommes ravis. Et on avait hier soir un bureau de CIVB, j'ai fini très tard hier soir, plus de 20h hier soir, bureau de CIVB, nous était bien montré, avec des résultats très promettants. Très prometteur, justement, sur cette campagne qui a pu de dépoussiérer l'image des vins de Bordeaux, remettre de l'humain face aux nos consommateurs. Voilà, on met beaucoup d'espoir dans ce renouveau des vins de Bordeaux. Même si moi je m'en défends à Saint-Émilion, je dis on n'a pas besoin de renouveau, parce qu'on est au contraire dans la tradition. Mais Saint-Émilion, comme on disait l'abbé Berger, Saint-Émilion c'est la tradition en marche. Donc on est toujours dans la tradition mais dans la modernité. Mais Bordeaux c'est ça aujourd'hui. Tout Bordeaux, c'est la tradition dans la modernité.
Et le vignoble n'a pas assez su séduire les jeunes, comme il n'a peut-être pas assez su séduire ni les cavistes ni les restaurateurs. Des virages ont été ratés.
Tout à fait. Bon, on n'est pas laissé sur le terrain, on s'est trop laissé porter un peu par les marchés asiatiques, par la Chine, voilà, bon, qui ont absorbé, qui étaient devenus notre plus gros marché d'exportation, voilà. Donc, et on a été un peu trop dans la facilité, et peut-être qu'on n'a pas pris le temps, et on n'a pas eu la volonté d'aller voilà, sur le terrain. Nous, à Saint-Émilion, par exemple, on avait créé au départ l'instance Saint-Émilion, qu'on a agrandi à l'instance Saint-Émilion pour Mont-le-Fransac, en donnant un budget d'environ 800 euros à chaque viticulteur pour aller passer une journée ou un week-end chez des clients cavistes, chez des restaurateurs, voilà, faire des jeux concours, donner des cadeaux, des tire-bouchons, des carafes, des choses, voilà, aux consommateurs. Voilà. Ça a été fait de là redévelopper au niveau de la grande tournée des vins de Bordeaux, voilà, dans lequel on va sur le terrain. Et les gens se disent « Ah, on est content de vous revoir !» Voilà. Donc ils sont contents de nous revoir. Et il faut continuer dans du concret comme ça, dans de l'humain. Voilà. Parce que, bon, à Saint-Émilion, ils nous ont vu, à Saint-Émilion et à Bordeaux, bon, on nous a vu des fois avec une image un peu à l'ancienne. Et puis quand les gens venaient chez nous, je vois nous à Saint-Émilion, de Nouvelle-Jura, dire « Ah, mais on vous imaginez pas comme ça, mais qu'est-ce qu'on rigole avec vous, qu'est-ce qu'on s'amuse ?» Et bien oui, c'est ça. Le vin, c'est ça. Quoi. Donc, et à Bordeaux, les vins de Bordeaux, ceux de Saint-Émilion, d'ailleurs, de tout Saint-Estève, de Margaux, autres, il y a plein de viticulteurs et on aime s'amuser quoi, autour du vin. Vous le savez, vous, César. Hein.
Merci Jean-François Gallo. Merci César.
Merci Monsieur Gallo.
Je retiens la tradition en marche, la tradition qui va sur le terrain, Jean-François Gallo. Ce podcast se termine. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter ces podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.r@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien. Et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.